Universel, Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver à l'écoute de la Voix de l'Amérique. C'est l'édition du jeudi 10 juillet du Monde Aujourd'hui chez Robin Dorsil et Nathalie Barge en votre compagnie. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Au sommaire ce soir, en Centrafrique, le représentant du secrétaire général de l'ONU condamne les récentes violences qui ont fait au moins 26 morts à Bambari.
Il y a à Bambari des images révoltantes. Et donc j'ai le devoir, au nom du secrétaire général, d'exprimer notre révolte par rapport à cette violence qui n'a aucun sens.
Le général Babacar Gaye.
Et un rapport d'Amnesty International épingle des auteurs ou instigateurs présumés de crimes en Centrafrique, dont François Bozizé et Michel Djotodia.
De nouveaux raids israéliens font plus de 30 victimes aujourd'hui à Gaza.
En Irak, les Kurdes réclament la démission du Premier ministre Nouri al-Maliki.
Nous parlerons d'une nouvelle loi sur l'immigration qui sème la confusion parmi les étrangers en Afrique du Sud.
Et dans notre segment spécial sur la Coupe du Monde, l'Argentine de Lionel Messi en finale dimanche contre les tombeurs du Brésil, la sélection allemande. Samedi, le pays hôte joue contre les Pays-Bas pour la troisième place. Mais tout d'abord, le journal. En Centrafrique, l'ONU se dit révoltée par les récentes violences à Bambari. Babacar Gaye, représentant de Ban Ki-moon, donc en Centrafrique, a condamné aujourd'hui l'attaque contre les déplacés du site de l'église catholique Saint-Joseph à Bambari. Il a appelé les Centrafricains à la raison. Le point avec Idriss Fall.
Le général Babacar Gaye, absent de Centrafrique au moment de l'attaque contre les déplacés de l'évêché de Bambari, a dénoncé aujourd'hui les violences.
Il y a à Bambari des images révoltantes. Et donc j'ai le devoir, au nom du secrétaire général, d'exprimer notre révolte par rapport à cette violence qui n'a aucun sens et qui, paradoxalement d'ailleurs, intervient toujours dans des lieux de culte. Ce sont des mosquées qu'on détruit, ce sont des gens qu'on tue dans des lieux de refuge, dans des lieux où, depuis le Moyen-Âge, il y a une espèce de trêve dans certains endroits et à certaines périodes.
Le représentant du secrétaire général de l'ONU a aussi appelé les Centrafricains à une prise de conscience à la veille du forum de Brazzaville, qui a fait l'objet d'un échange entre la présidente Catherine Samba-Panza et l'association des partis politiques et la plateforme religieuse. Cette association s'était opposée à la tenue à Brazzaville et non en de cette rencontre, la présidente de la transition a expliqué que les discussions de Brazzaville ne sont que la toute première étape du processus vers le règlement de la crise.
En Afrique du Sud, la justice a refusé la remise en liberté conditionnelle d'Eugène de Kock. L'ancien colonel de la police de l'apartheid est en prison depuis 20 ans pour enlèvement, torture et assassinat d'opposants. Jean-Roger Bion.
Le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, Michael Masuta, a dit qu'il ne va pas approuver la libération conditionnelle parce qu'aucune famille des victimes n'a été consultée. Eugène de Kock, âgé de 65 ans, est considéré comme le tueur numéro 1 du régime de l'apartheid. Il avait été condamné en 1996 à 212 ans de prison pour 89 crimes et délits commis lorsqu'il était à la tête d'une unité antiterroriste de la police. Il était chargé de traquer, enlever, torturer et éliminer physiquement les opposants au régime de l'apartheid.
Le sommet États-Unis-Afrique se tiendra les 5 et 6 août prochains avec une cinquantaine de chefs d'État à Washington. La sous-secrétaire d'État chargée de l'Afrique, Linda Thomas-Greenfield, a donné hier des détails. Les thèmes de la gouvernance, de la sécurité et des futures générations seront abordés, mais également les thèmes de la révision constitutionnelle. Ce sommet sera précédé d'un forum d'entrepreneurs américains et africains, mais le président américain n'a prévu aucune rencontre bilatérale.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a rendu public hier les noms de 15 des 17 membres de la commission électorale. Les deux derniers doivent être désignés par l'Alliance des Forces démocratiques, une coalition d'une douzaine de partis de l'opposition. Le Front populaire ivoirien et l'Alliance des Forces démocratiques maintiennent le suspense quant à leur participation à cette commission qu'ils jugent très déséquilibrée.
En Tunisie, les inscriptions en ligne et par SMS sur les listes électorales pour les élections générales de fin d'année ont dû être interrompues en raison d'une attaque de pirates informatiques. Les Tunisiens peuvent néanmoins s'inscrire dans les administrations compétentes. Les inscriptions ont été lancées commencer le 23 juin et doivent s'achever le 22 juillet pour permettre aux quelques 4 millions d'électeurs potentiels restants de s'inscrire. Seulement 100 000 personnes environ ont effectué la démarche jusqu'à présent.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Crise israélo-palestinienne, 31 personnes ont été tuées ce jeudi dans des raids israéliens sur la bande de Gaza. Selon des sources médicales, cela porte à 82 le nombre de victimes au troisième jour de l'opération militaire israélienne. Bagassi Koura.
Dans l'une des attaques les plus meurtrières, 9 personnes ont été tuées alors qu'elles suivaient le match Argentine-Pays-Bas dans un café de Cannes, Younes. L'armée israélienne dit avoir visé plus de 320 sites du Hamas, ce qui porte à 750 le nombre de raids depuis le début de l'opération Bordure de protection. Elle a été lancée mardi au lendemain des salves de roquettes tirées par le Hamas sur Israël. Ce mouvement islamiste a revendiqué jeudi un nouveau tir sur Tel Aviv qui a été intercepté par système de défense antimissile. Ce nouveau cycle de violence a commencé après le rapt puis le meurtre de 3 étudiants israéliens en Cisjordanie. En représailles, des extrémistes juifs ont brûlé vif un jeune Palestinien de Jérusalem-Est.
En Irak, les Kurdes réclament la démission du Premier ministre Nouri al-Maliki qui a accusé leur province d'être la base arrière des djihadistes. Des détails avec Sarah Diaby.
Les Kurdes ont exigé aujourd'hui le départ immédiat du Premier ministre. Nouri al-Maliki a accusé le Kurdistan irakien d'être le quartier général des djihadistes. Cette déclaration a provoqué de vives critiques à l'encontre du Premier ministre irakien. Il s'agit de la énième attaque contre M. Maliki, chiite au pouvoir depuis 2006 et accusé de marginaliser la minorité sunnite. Dans un communiqué, la présidence kurde a qualifié Nouri al-Maliki d'hystérique qui a perdu l'équilibre. Rappelons que le président du Kurdistan irakien, Massoud Barzani, avait proposé un référendum d'indépendance que le premier ministre avait rejeté. L'Irak est dans une impasse. Le nouveau Parlement n'a pas réussi à s'entendre sur le président de l'Assemblée, ce qui retarde la formation du gouvernement. Les djihadistes de l'État islamique ont lancé une vaste offensive depuis le 9 juin. Le groupe s'est déjà emparé de plusieurs territoires au nord et à l'est du pays.
L'Allemagne, la France et la Russie ont appelé à un rétablissement du cessez-le-feu entre l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes. Le président Petro Poroshenko avait déclaré une trêve unilatérale pendant 10 jours, mais les combats ont repris depuis la semaine dernière. Selon certaines sources, les chars des forces gouvernementales étaient seulement à une 20aine de kilomètres de Donetsk, bastion des rebelles, dans l'est de l'Ukraine. La Russie est sous pression pour forcer les séparatistes à négocier, mais elle dément avoir fourni des armes à la rébellion.
Le gouvernement allemand a annoncé l'expulsion du chef des services secrets américains pour l'Allemagne, une mesure rare entre des proches alliés au sein de l'OTAN. Pour la deuxième fois en 5 jours, la justice allemande avait ouvert une enquête hier sur un double espion présumé travailler pour le compte de Washington. L'affaire a encore tendu les relations entre les États-Unis et l'Allemagne, déjà ternies par des révélations l'an dernier sur l'espionnage du téléphone portable de la chancelière Angela Merkel.
Le gouvernement chinois fait face à de nouvelles allégations de cyberespionnage aux États-Unis suite à des échanges sur la question cette semaine à Pékin. Citant de hauts responsables américains, le New York Times a rapporté une violation par des pirates chinois d'un réseau contenant les informations de fonctionnaires du gouvernement fédéral des États-Unis. À la fin du dialogue économique et stratégique annuel, aujourd'hui, dans la capitale chinoise, le secrétaire d'État John Kerry a minimisé la révélation du New York Times, disant qu'aucun dossier sensible ne semble avoir été compromis. La Chine a toujours démenti les accusations de cyberespionnage venant de Washington.
La Corée du Nord propose des pourparlers avec Séoul sur l'envoi éventuel d'une délégation nord-coréenne aux Jeux asiatiques. Cette compétition doit avoir lieu en Corée du Sud fin septembre et début octobre. Selon le gouvernement nord-coréen, l'envoi de cette délégation vise à améliorer les relations bilatérales. Le ministère sud-coréen de la réunification a promis de répondre à l'offre de Pyongyang ce jeudi même.
Dans le sud des États-Unis, une dispute familiale a fait hier 6 victimes près de Houston, au Texas. Un nouveau drame qui va à coup sûr relancer le débat sur le port d'armes à feu. Claire Morin-Gibourg.
Près de Houston, au Texas, un homme a tué hier 4 enfants et 2 adultes au cours d'une dispute familiale. Après une course-poursuite avec la police, l'homme a été arrêté et placé en détention. Cette nouvelle fusillade relance le débat sur le port des armes à feu aux États-Unis. Début juin, le président Barack Obama avait appelé les Américains à un examen de conscience sur les armes à feu. La NRA, le très puissant lobby américain des armes à feu, continue de faire pression. Elle s'oppose à tout contrôle du port des armes au nom de la légitime défense. Le port des armes est également autorisé par le 2e amendement de la Constitution américaine.
Merci Claire, merci Nathalie Barge. C'est tout pour le journal. 19h40, temps universel, 15h40 ici à Washington. Le Monde aujourd'hui, chez Robin Dorcil en votre compagnie. La partie magazine de notre émission. Dans un rapport publié ce jeudi, Amnesty International identifie certaines des personnes soupçonnées d'avoir ordonné ou commis des atrocités en République centrafricaine et lance un appel pour qu'elles soient traduites en justice. Il est temps de rendre les comptes, affirme le rapport d'Amnesty. Camille Gros-Didier a joint à Londres Christian Mukosa, chercheur sur la République centrafricaine à Amnesty International.
Nous avons recueilli beaucoup de témoignages, nous avons organisé des missions de recherche sur le terrain, que ce soit en République centrafricaine ou au Tchad, et nous avons pu proposer dans ces rapports déjà qu'il y a beaucoup d'informations qui peuvent fonder les bases sur lesquelles les organes d'enquête, que ce soit enquête nationale ou internationale, que ce soit la Cour pénale internationale ou d'autres mécanismes de justice internationale ou nationale ou régionaux, peuvent se baser pour fonder leurs propres enquêtes. Et ça, c'est une grande contribution d'Amnesty International à la question de la lutte contre l'impunité pour les violations graves des droits humains qui sont en train de se commettre en République centrafricaine.
La plupart des suspects identifiés par Amnesty International vivent sans se cacher en République centrafricaine. D'autres sont installés au Tchad ou en France. En fait, ces suspects sont là. La justice peut déjà agir.
La faiblesse du système judiciaire, c'est un problème, mais il aussi se pose un problème de volonté politique réelle de la part des autorités de transition. Nous pensons qu'il y a des choses qui peuvent commencer à faire déjà. Nous pensons qu'il y a des choses qui peuvent être faites déjà, d'ailleurs, avec l'appui de la communauté internationale ou avec les peu de moyens que les autorités de transition ont. Malheureusement, l'insécurité, la peur des représailles, la peur de perdre ses positionnements politiques font que les autorités sont réluctantes pour essayer à faire quelque chose pour s'assurer que les enquêtes commencent, que les gens soient questionnés et que ceux sur qui on a des preuves suffisantes soient traduits en justice. Et là, ça manque beaucoup et il faut renforcer cette capacité-là. Il faut aussi aider les autorités à prendre du courage, aller de l'avant et essayer à traduire en justice ces personnes-là.
Est-ce que la solution serait, comme le suggère Amnesty, un tribunal hybride composé de responsables centrafricains et internationaux?
C'est une des solutions que nous avons proposées auprès des autorités nationales et internationales dans ces rapports. Ce tribunal hybride aura deux raisons d'être. La première raison est qu'il aura une composante nationale et une composante internationale qui va essayer directement de poser des actes d'enquête, etc. Il bénéficiera de l'appui international en termes de protection, mais aussi de l'expertise internationale et nationale.
Au micro de Camille Gros-Didier, Christian Mukosa, chercheur sur la République centrafricaine à Amnesty International.
Bonjour, c'est Nicolas Pinault de Sporama sur la Voix de l'Amérique. La Coupe du Monde au Brésil, non-stop, sur votre portable, c'est possible, allez sur voabrésil2014.com. Les matchs en direct, résultats, photos et vidéos de cet événement planétaire, à partager avec vos amis sur Facebook et Twitter. La Coupe du Monde non-stop, c'est sur voabrésil2014.com.
Cap maintenant sur l'Afrique du Sud. Une nouvelle loi sur l'immigration sème la confusion parmi les étrangers établis dans ce pays. Ces expatriés, tant européens qu'africains, sont désormais contraints à renouveler leurs papiers dans leur pays d'origine. Environ 250 000 Zimbabwéens sont notamment concernés et n'osent plus ainsi se rendre à l'étranger de peur de ne plus pouvoir revenir. La législation impose aussi de lourdes démarches administratives à tous les voyageurs, soulevant un vent de panique parmi les opérateurs touristiques. Pour une analyse, Jacques Aristide a contacté le docteur Lucien Toulou de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, un Camerounais établi lui-même en Afrique du Sud depuis 2007.
Il y a des réactions assez vives par rapport à cette nouvelle loi et l'une des réactions les plus vives est en rapport avec l'obligation faite maintenant à ceux qui renouvellent leur permis de séjour d'attendre que ce permis de séjour soit délivré avant de quitter le pays ou d'y rentrer. Il faut préciser que auparavant, du fait des lenteurs de la bureaucratie de Home Affairs, il était possible sur la base d'un document, d'une sorte de récépissé délivré par l'immigration, de sortir et de rentrer en Afrique du Sud en attendant que ces papiers soient renouvelés. Mais j'ai pu comprendre aussi qu'il y a eu un nombre de personnes d'origine étrangère qui ont abusé du système et qu'il s'agissait par là pour l'administration sud-africaine de contrôler un peu sa politique d'immigration. Bien entendu, cela va avoir des conséquences sur le tourisme, sur la perception des étrangers dans le pays et aussi sur les relations que les étrangers ont vis-à-vis de leur pays d'accueil.
Le Kenya, par exemple, a réagi en imposant des obligations identiques aux ressortissants sud-africains à partir de septembre.
Oui, mais ça, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Chaque pays doit effectivement gérer ses relations avec d'autres sur la base de la réciprocité. C'est-à-dire que la manière dont vous traitez mes citoyens qui viennent chez vous, je traite vos ressortissants de la même manière. Donc là, ce n'est pas nouveau. Ce qui peut en revanche être inquiétant, c'est l'image que cette réforme peut donner, l'image que voilà, l'Afrique du Sud, pour régler ses problèmes internes en termes de gouvernance, pour faire face à la question du chômage et au mécontentement d'une partie de la société qui ne voit pas véritablement les retombées de la démocratie, de la fin de l'apartheid, choisissent effectivement de mettre en avant la question migratoire comme s'il suffisait de restreindre les conditions d'entrée et de séjour des étrangers pour résoudre les problèmes. Donc ça peut effectivement être inquiétant. Encore une fois, bon, cela ne surprend pas parce que d'une certaine manière, il n'est pas certain que les autorités sud-africaines prennent la mesure de l'importance de ce que les pays africains prennent la mesure du rôle que les pays africains ont joué dans le cadre de la lutte contre l'apartheid, mais également qu'ils aient pris toute la mesure des migrations des pays africains vers l'Afrique du Sud et vice-versa, le rôle que ces flux migratoires peuvent avoir sur l'économie sud-africaine au-delà de la question du tourisme, parce que ce qui arrive, c'est aussi des gens qui ont des qualifications que les locaux n'ont pas toujours.
Le docteur Lucien Toulou de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, joint à Johannesburg. Aujourd'hui, sur la Voix de l'Amérique, chez Robin Dorsil en votre compagnie. Retour aux États-Unis, le président Barack Obama affirme que son administration est capable de résoudre la crise de l'immigration posée par les 57 000 mineurs non accompagnés ayant traversé la frontière avec le Mexique. En visite hier au Texas, il a plaidé à nouveau pour que le Congrès approuve le fonds d'urgence de 3,7 milliards de dollars. Jean-Roger Bion.
Dans un discours à Dallas, le président Obama a mis les pieds dans le plat et a appelé les autorités locales à agir.
Bien entendu, dans le long terme, la meilleure façon d'aborder véritablement ce problème est pour la Chambre des représentants d'adopter une loi pour refondre notre système d'immigration en panne qui devrait inclure le recrutement de milliers d'agents supplémentaires pour les patrouilles à la frontière, quelque chose que tout le monde dans le Sud ici considère comme une priorité.
Les républicains accusent les démocrates d'avoir créé cette crise. Le sénateur John McCain, un républicain de l'Arizona, dit qu'en 2013, seul un immigrant clandestin sur 20 a été refoulé.
Le fait est que les gens se présentent et ils ont toutes les raisons de croire selon ces chiffres. Et je serais heureux de regarder ces chiffres, même si c'est seulement une moitié, qu'il y a suffisamment de motifs pour eux de venir dans ce pays.
Tom Capper, un démocrate du Delaware, a déclaré qu'il est important de s'attaquer aux causes profondes de l'exode massif des ressortissants de certains pays.
Life in parts of Guatemala, El Salvador and Honduras is more than difficult today.
La vie dans certaines régions du Guatemala, du Salvador et du Honduras est très difficile aujourd'hui. On y frôle la mort tous les jours. Je l'ai vu moi-même cette année. La violence n'a cessé de s'accroître dans la région. Le taux d'homicide dans les trois pays est le plus élevé dans le monde entier. Les enlèvements et les extorsions de fonds sont endémiques. Pendant ce temps, ces pays stagnent économiquement et créent trop peu d'emplois et d'opportunités pour leurs citoyens.
Les regards sont tournés vers le Congrès américain qui doit décider d'approuver ou non la demande de l'administration Obama qui sollicite 3,7 milliards de dollars pour faire face à la crise humanitaire.
Le journal de la Coupe du Monde, comme chaque jour sur La Voix de l'Amérique, nous avons en studio Félix Yepassis Zembro. Salut Félix.
Bonjour cher Urbain Dorsil, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de la Coupe du Monde. La dernière demi-finale s'est jouée hier et c'est finalement l'Argentine qui ira défier l'Allemagne dimanche en finale. Contrairement à la première demi-finale mardi entre le Brésil et l'Allemagne, match qui s'est soldé par une pluie de buts 7 à 1 hier, les deux équipes ont offert un spectacle souvent ennuyant. Pour Hervé Penaud du journal L'Équipe, les deux équipes n'ont pas pris de risque en raison de la grosse défaite de la veille du Brésil.
Les deux équipes ont joué un peu avec la peur au ventre, la peur de ne pas aller en finale finalement. Et le problème de ce genre de situation, c'est que après, il y a toujours une équipe qui va en finale. Donc, celle qui a perdu a la déception de ne pas avoir tout tenté. Et je suis persuadé aujourd'hui que les Néerlandais peuvent se dire il y avait un coup à jouer. Mais ils n'ont pas tenté à fond, alors que je crois qu'ils avaient des moyens de s'imposer contre cette équipe argentine.
Voilà. Et il y avait deux joueurs qui étaient très attendus, notamment Robben et Lionel Messi. Comment vous avez trouvé l'un et l'autre?
Robben a tenté un petit peu plus. Il n'a pas été exceptionnel. Il n'a pas fait les différences individuelles parfaites. Il a eu une occasion incroyable, hein, mais il a un contrôle qui va un petit peu loin sur une passe de slider dans la surface de réparation. Et il se fait reprendre par le défenseur. Mais ça reste toujours un poison pour toutes les équipes. Et puis, on n'a pas tellement vu Messi, effectivement. Il a eu beaucoup de mal sur ses initiatives individuelles. Il a été pris dans son jeu d'élimination. Il a été plus en difficulté parce qu'à l'habitude, on sait qu'il est capable d'éliminer facilement. Là, il a une lecture du jeu des défenseurs néerlandais qui l'ont empêché de se mettre en valeur. Donc, il n'a pas eu l'influence qu'on pouvait imaginer de Messi. Mais au final, l'équipe gagne. Donc, je pense qu'il est plus content d'avoir été moins fort individuellement mais collectivement que son équipe soit passée.
Alors, est-ce que l'Allemagne part favorite face à l'Argentine?
Je me méfie de ce genre d'analyse après une demi-finale. Évidemment, si on regarde les deux demi-finales, l'Allemagne part favorite. Si on avait regardé les quarts de finale ou les huitièmes de finale, peut-être que beaucoup de gens auraient dit « mais l'Allemagne n'est pas si forte que ça, elle a eu du mal contre l'Algérie, contre la France, c'était pas exceptionnel non plus ». Donc méfions-nous, je ne pense pas que sur une finale, il y a un vrai favori. Ça va être très serré, très difficile. Je partirai un petit peu sur pas de favori et puis on va voir ce qui peut se passer. Même si l'Allemagne a fait une plus forte impression ces derniers temps.
Le 1 contre 1 est considéré comme le point faible du 11 allemand par une partie de la presse. Mais l'arrière-gauche de la Mannschaft, Benedikt Hauders, a estimé jeudi que l'équipe d'Allemagne peut contenir Lionel Messi par le collectif et en jouant compact. Oui, comme je le disais, mardi, le Brésil s'est fait humilier 7 à 1 par l'Allemagne. Jamais dans l'histoire du mondial, le Brésil n'a subi une telle humiliation. Dans son coup de sifflet, notre consultant Jules Valentin Gouet revient sur la débâcle du Brésil.
We celebrate the best African football.
Bonjour. Comment ne pas revenir sur la catastrophe historique de Belo Horizonte, devenu l'événement de cette Coupe du Monde qui a vu l'Allemagne corriger le Brésil dans une rencontre surréaliste dont personne ne pouvait pronostiquer l'issue et encore moins le score. On sentait arriver le crash, mais nul, pas même le plus excentrique des bookmakers, n'aurait pu prévoir son ampleur à ce niveau de la compétition, quelle qu'ait été la médiocrité de la production des poulains de Scolari. Une chose est certaine, le sélectionneur brésilien devra assumer ses choix. Depuis la désignation du Brésil pour l'organisation du mondial, Scolari a préféré mettre sur pied une nouvelle équipe sur la base de la sélection des jeunes, champion du monde junior, puis vice-champion olympique en 2012, écartant par la même occasion des joueurs d'expérience qui auraient pu apporter une sécurité minimale dans un groupe totalement converti aux critères du football européen. Du coup, la perte d'éléments clés dans les zones névralgiques que sont la défense centrale et l'animation offensive lui a été fatale. Cependant, limiter le naufrage brésilien à la seule absence de Neymar et de Thiago Silva serait réducteur. C'est toute l'équipe qui a sombré, victime d'un chaos parfait d'un soir, comme cela arrive rarement en haute compétition. C'est donc dans la sérénité que les décideurs brésiliens sont appelés à réfléchir sur le dépoussiérage des fondamentaux qui ont toujours fait la réussite du football carioca. Et ceci pour le bonheur des puristes. À demain. Put your flags up in the sky,
Les appels de la Fédération uruguayenne de football et de Luis Suarez lui-même contestant les sanctions infligées pour avoir mordu un joueur au Mondial 2014 ont été rejetés par la FIFA. La peine de 9 matchs de suspension en sélection et de 4 mois d'interdiction de toute activité liée au football, ce qui empêche notamment le joueur de s'entraîner avec son club Liverpool pendant cette période, est donc maintenue. La FIFA a toutefois précisé qu'il existait encore un recours pour la Fédération uruguayenne et le joueur devant le tribunal arbitral du sport à Lausanne.
Voilà, merci Félix Yepassi-Zembro pour le journal de la Coupe du Monde. C'est presque la fin de cette édition. Le dernier mot sera, comme d'habitude, à Roger Montou, notre pilote, ou Monsieur Musique, comme j'aime à l'appeler. Alors, tu nous réserves quoi?
Salut Gabi. Ben effectivement, hein, je vous réserve de la bonne musique. Cela fait déjà 7 longues semaines qu'Iggy Azalea fait danser la planète entière grâce à son tube Fancy en duo avec Charlie XCX. Une longévité qui lui permet presque de faire de l'ombre à Lorde et Rihanna. En effet, la jolie Australienne est sur le point de battre le record du titre qui est resté le plus longtemps numéro 1 au Billboard Hot 100. On écoute Fancy. First things first, I'm the realest. Realest. Drop this and let the whole world feel it. Let them feel it. And I'm still in the murder business. I can hold you down like I'm giving lessons in physics. Right, right. You should want a bad bitch like this. Huh? Drop it low and pick it up just like this. Yeah. Cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. High heels, something worth a half a ticket on my wrist. Back. On my wrist. Taking all the liquor straight, never chase that. Never. Stop like we bring an 88 back. What? Bring the hooks in where the bass at. Champagne spilling, you should taste that. I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo. I'm so fancy. Can't you taste this gold? Remember my name. Hot to blow. I said, baby, I do this. I thought that you knew this. Can't stand no haters and honest. The truth is, in my flow, the fetish be deep. Over all, I thought you knew that I'd be the I-G-G-Y, put my name in bold. I've been working, I'm up in here with some change to throw. I'm so fancy, you already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo, I'm so fancy. Can't you taste this gold? Remember my name. Got to blow, trash the hotel. How you love that? Got the whole world asking how I does that. Hot girl, hands off, don't touch that. Look at it, I bet you wishing you could clutch that. That's just the way you like it, huh? It's so good, he just wishing he could bite it, huh? Never turn down nothing, slain it. Go trigger on a trigger like it.
C'est la fin de cette édition, mise en onde par Georges Léonard Sagnot, avec l'assistance de notre ami Marc Houlier à la console technique. Écrivez-nous sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. C'était chez Roubaix d'Orcy à la présentation. Bonsoir. Gigi Wap.